Welcome to the library. I am AMC, your storyteller for tonight. The book I chose to read to you is Histoire d'eau by Pauline Réage. The story of O is written in 4 chapters over about 250 pages, and there is a second ending. I'm gonna start with the first chapter tonight. I'm not gonna read all of it. But if you like it, I hope that you will be back for more and for the rest of the story. If you like it, I promise that I will read the entire story and provide it to you. Let's begin. L'histoire d'eau by Pauline Réage. Les amants de Roissy. Son amant emmène un jour O se promener dans un quartier où il ne vend jamais, le parc Montsouris, le parc Monceau. À l'angle du parc, au coin d'une rue où il n'y avait jamais de station de taxi, après qu'il se sent promené dans le parc et assis, côte à côte au bord d'une pelouse, ils aperçoivent une voiture avec un compteur qui ressemble à un taxi. « Monte, » dit-il. Elle monte. Ce n'est pas loin du soir, et c'est l'automne. Elle est vêtue comme elle l'est toujours. Des souliers avec des hauts talons, un tailleur à jupe plissée, une blouse de soie et pas de chapeau. Mais de grands gants qui montent sur les manches de son tailleur, et elle porte dans son sac de cuir ses papiers, sa poudre et son rouge. Le taxi part doucement, sans que l'homme ait dit un mot au chauffeur. Mais il ferme, à droite et à gauche, les volets à glissière sur les vitres et à l'arrière. Elle a retiré ses gants, pensant qu'il veut l'embrasser ou qu'elle le caresse. Mais il dit « Tu es embarrassé, donne ton sac. » Elle le donne. Il le pose hors de portée d'elle et ajoute « Tu es aussi trop habillé. Défais des jarretelles, roule tes bas au-dessus de tes genoux. Voici des jarretières. » Elle a un peu de peine. Le taxi roule plus vite. Il a peur que le chauffeur ne se retourne. Enfin, les bas sont roulés et elle est gênée de sentir ses jambes nues et libres sous la soie de sa combinaison. Aussi, les jarretelles défaites glissent. « Défais ta ceinture, » dit-il, « et ôte ton slip. » Cela, c'est facile. Il suffit de passer les mains derrière les reins et de se soulever un peu. Il lui prend des mains la ceinture et le slip, ouvre le sac et les y enferme, puis dit « Il ne faut pas t'asseoir sur ta combinaison et ta jupe. Il faut les relever et t'asseoir directement sur la banquette. » La banquette est en moleskine, glissante et froide. C'est saisissant de le sentir collé aux cuisses. Puis il lui dit « Remets tes gants maintenant. » Le taxi roule toujours et elle n'ose pas demander pourquoi René ne bouge pas et ne dit plus rien, ni quelle signification cela peut avoir pour lui, qu'elle soit immobile et muette, si dénudée et si offerte, si bien gantée, dans une voiture noire qui va, elle, ne sait pas où. Il ne lui a rien ordonné ni défendu, mais elle n'ose ni croiser les jambes ni serrer les genoux. Elle a ses deux mains gantées appuyées de chaque côté d'elle sur la banquette. « Voilà !» dit-il tout à coup. « Voilà !» Le taxi s'arrête dans une belle avenue sous un arbre, ce sont des plantanes, devant une sorte de petit hôtel qu'on devine entre cour et jardin, comme les petits hôtels du faubourg Saint-Germain. Les réverbères sont un peu loin, il fait sombre encore dans la voiture et dehors, il pleut. « Ne bouge pas !» dit René. « Ne bouge pas du tout !» Il allonge la main vers le col de sa blouse, défait le nœud puis les boutons. Elle penche un peu le buste et croit qu'il veut lui caresser les seins. Non, Ils t'attendent seulement pour saisir et trancher avec un petit canif les bretelles du soutien-gorge qu'il enlève. Et là maintenant, sous la blouse qu'il a refermée, les seins libres et nus comme elle a nu et libre les reins et le ventre de la taille au genou. « Écoute, dit-il, maintenant tu es prête. Je te laisse. Tu vas descendre et sonner à la porte. Tu suivras qui t'ouvrira, tu feras ce qu'on t'ordonnera. Si tu n'entrais pas tout de suite, on viendrait te chercher. Si tu n'obéissais pas tout de suite, on te ferait obéir. Ton sac? Non, tu n'as plus besoin de son sac. Tu es seulement la fille que je fournis. Si, si, je serai là. Va. » Une autre version du même début était plus brutale et plus simple. La jeune femme, pareillement vêtue, était emmenée en voiture par son amant et un ami inconnu. L'inconnu était au volant, l'amant assis à côté de la jeune femme, et c'était l'ami, l'inconnu, qui parlait pour expliquer à la jeune femme que son amant était chargé de la préparer, qu'il allait lui lier les mains dans le dos, par-dessus ses gants, lui défaire et lui rouler ses bas, lui enlever sa ceinture, son slip et son soutien-gorge, et lui bander les yeux. Qu'ensuite elle serait remise au château, où on l'instruirait à mesure de ce qu'elle aurait à faire. En effet, une fois assis défaitue et layée, au bout d'une demi-heure de route, on l'aidait à sortir de voiture, on lui faisait monter quelques marches, puis franchir au nid au bord toujours à l'aveugle. Elle se retrouvait seule, sans bandon enlevé, debout dans une pièce noire où on la laissait une demi-heure, ou une heure, ou deux, je ne sais pas, mais c'était un siècle. Puis, quand enfin la porte s'ouvrait et que s'allumait la lumière, on voyait qu'elle avait attendu dans une pièce très banale et confortable et pourtant singulière. Avec un épais tapis par terre, mais sans un meuble, tout entouré de placards. Deux femmes avaient ouvert la porte, deux femmes jeunes et jolies, vêtues comme de jolies servantes du XVIIIe siècle, avec de longues jupes légères et bouffantes qui cachaient les pieds, des corselets serrés qui faisaient jaillir la poitrine, étaient lacés ou agrafés par devant, et des dentelles autour de la gorge et des manches à demi longues, les yeux et la bouche fardés. Elles avaient un collier serré autour du cou, des bracelets serrés autour des poignets. Alors je sais que l'on défait les mains d'eau, qui étaient toujours liées derrière le dos, et lui ont dit qu'il fallait qu'elle se déshabillât et qu'on allait la baigner et la farder. On l'a donc mise nue et on a rangé ses vêtements dans un des placards. On ne l'a pas laissée se baigner seule et on l'a coiffée, comme chez le coiffeur, en la faisant asseoir dans un de ces grands fauteuils qui basculent quand on vous lave la tête et que l'on redresse pour vous mettre le séchoir, après la mise en pli. Cela dure toujours au moins une heure. Cela a duré plus d'une heure en effet, mais elle était assise sur ce fauteuil, nue, et on lui défendait de croiser les genoux ou de les rapprocher l'un de l'autre. Et comme il y avait en face d'elle une grande glace, du haut en bas de la paroi, qui n'interrompait aucune tablette, elle se voyait ainsi ouverte chaque fois que son regard rencontrait la glace. Quand elle a été prête et fardée, les paupières légèrement ambrées, la bouche très rouge, la pointe et l'aréole des seins rosies, le bord des lèvres du ventre rougi, du parfum longuement passé sur la fourrure des aisselles et du pubis, dans les sillons entre les cuisses, dans le sillon sous les seins et au creux des paumes, on l'a fait entrer dans une pièce où un miroir à trois faces et un quatrième miroir au mur permettaient de se bien voir. On lui a dit de s'asseoir sur le pouf au milieu des miroirs et d'attendre. Le pouf était couvert de fourrure noire qu'il a piqué un peu et le tapis était noir, les murs rouges. Elle avait des mules rouges aux pieds. Sur une des parois du petit boudoir, il y avait une grande fenêtre qui donnait sur un beau parc sombre. Il avait cessé de pleuvoir, les arbres bougeaient sous le vent, la lune courait haut entre les nuages. Je ne sais pas combien de temps elle est restée dans le boudoir rouge, ni si elle y était vraiment seule, comme elle croyait l'être, ou si quelqu'un l'a regardée par une ouverture camouflée dans un mur. Mais ce que je sais, c'est que, lorsque les deux femmes sont revenues, l'une portait un centimètre de couturière, l'autre une corbeille. Un homme les accompagnait, vêtu d'une longue robe violette à manches étroites aux poignets et larges aux émanchures, et qui s'ouvrait à partir de la taille quand il marchait. On voyait qu'il portait sous sa robe des espèces de choses collantes qui recouvraient les jambes et les cuisses, mais laissaient libre le sexe. Ce fut le sexe que O vit d'abord, à son premier pas, puis le fouet de lanières de cuir passé à la ceinture, puis que l'homme était masqué par une cagoule noire ou un réseau de tulle noire dissimulait même les yeux, et enfin, qu'il avait des gants noirs aussi et de fins chevreaux. Il lui dit de ne pas bouger, en la tutoyant et aux femmes de se dépêcher. Celle qui avait le centimètre prit alors la mesure du coude et de ses poignets. C'étaient des mesures tout à fait courantes, quoique petites. Il fut facile de trouver dans le panier que tenait l'autre femme le collier et le bracelet qui correspondaient. Voici comment il était fait. En plusieurs épaisseurs de cuir, chaque épaisseur assez mince, au total pas plus d'un doigt, fermé par un système à déclic qui fonctionnait automatiquement comme un cadenas quand on le fermait et ne pouvait s'ouvrir qu'avec une petite clé. Dans la partie exactement opposée à la fermeture, dans le milieu des épaisseurs de cuir et n'ayant presque pas de jeu, il y avait un anneau de métal qui donnait une prise sur le bracelet si on voulait le fixer, car il était trop serré au bras et le collier trop serré au cou, bien qu'il y eût assez de jeu pour ne pas du tout blesser, pour qu'on y pût glisser le moindre lien. On fixa donc ce collier et ses bracelets à son cou et ses poignets, puis l'homme lui dit de se lever. Il s'assit à sa place sur le pouf de fourrure et la fit approcher contre ses genoux, lui passa sa main gantée entre les cuisses et sur les seins et lui expliqua qu'elle serait présentée le soir même après le dîner qu'elle prendrait seule. Elle le prit seule en effet, toujours nue, dans une sorte de petite cabine où une main invisible lui tendait les plats par un guichet. Enfin, le dîner fini, les deux femmes revinrent la chercher. Dans le boudoir, elles fixèrent ensemble, derrière son dos, les deux anneaux de ses bracelets, lui mirent sur les épaules, attachée à son collier, une longue cape rouge qui la couvrait tout entière, mais s'ouvrait quand elle marchait, puisqu'elle ne pouvait la retenir, ayant les mains attachées derrière le dos. Une femme avançait devant elle et ouvrait les portes, l'autre la suivait et les refermait. Elles traversèrent un vestibule, deux salons, et pénétrèrent dans la bibliothèque où quatre hommes prenaient le café. Ils portaient les mêmes grandes robes que le premier, mais aucun masque. Cependant, O n'eut pas le temps de voir leur visage et de reconnaître si son amant était parmi eux. Il y était, car l'un des quatre tourna vers elle, une lampe phare qui l'aveugla. Tout le monde resta immobile, les deux femmes de chaque côté d'elle et les hommes en face qui la regardaient. Puis le phare s'éteignit, les femmes partirent. Mais on avait remis à O un bandeau sur les yeux. Alors on la fit avancer, trébuchant un peu, et elle se sentit debout devant le grand feu, auprès duquel les quatre hommes étaient assis. Elle sentait la chaleur et entendait crépiter doucement les bûches dans le silence. Elle faisait face au feu. Deux mains soulevèrent sa cape, deux autres descendaient le long de ses reins après avoir vérifié l'attache des bracelets. Elle n'était pas comptée et l'une la pénétra de deux parts à la fois, si brusquement qu'elle cria. Quelqu'un rit. Quelqu'un d'autre dit « Retournez-la, qu'on voit les seins et le ventre !» On la fit tourner et la chaleur du feu était contre ses reins. Une main lui prit un sein. Une bouche saisit la pointe de l'autre. Mais soudain elle perdit l'équilibre et bascula à la renverse, soutenue dans quel bras? pendant qu'on lui ouvrait les jambes et qu'on lui écartait doucement les lèvres. Des cheveux effleurèrent l'intérieur de ses cuisses. Elle entendit qu'on disait qu'il fallait la mettre à genoux, ce qu'on fit. Elle était très mal à genoux, d'autant plus qu'on lui défendait de les rapprocher et que ses mains liées au dos la faisaient pencher en avant. On lui permit alors de fléchir un peu en arrière, à demi assise sur les talons qu'en font les religieuses. « Vous ne l'avez jamais attachée ?»« Non, jamais. »« Ni fouettée ?»« Jamais non plus, mais justement. » C'était son amant qui répondait. « Justement, » dit l'autre voix. « Si vous l'attachez quelquefois, si vous la fouettez un peu, et qu'elle y prenne plaisir, non. Ce qu'il faut, c'est dépasser le moment où elle y prendra plaisir pour obtenir les larmes. » On fit alors lever haut et on allait la détacher, sans doute pour la lier à quelque poteau ou quelque mur, quand quelqu'un protesta qu'il la voulait prendre d'abord et tout de suite. Si bien qu'on la fit remettre à genoux, mais cette fois le buste reposant sur un pouf, toujours les mains au dos et les reins plus hauts que le torse, et l'un des hommes, là maintenant des deux mains aux hanches, s'enfonça dans son ventre. Il céda la place à un second. Le troisième voulut se frayer un chemin au plus étroit et forçant brusquement la fit hurler. Quand il la lâcha, gémissante et salie de larmes sous son bandeau, elle glissa à terre. Ce fut pour sentir des genoux contre son visage et que sa bouche ne serait pas épargnée. On la laissa enfin, captive à la renverse dans ses oripeaux rouges devant le feu. Elle entendit qu'on remplissait des verres et qu'on buvait et qu'on bougeait des sièges. On remettait du bois au feu. Soudain, on lui enleva son bandeau. La grande pièce avec des livres sur les murs était faiblement éclairée par une lampe sur une console et par la clarté du feu qui se ranimait. Deux des hommes étaient debout et fumaient. Un autre était assis, une cravache sur les genoux, et celui qui était penché sur elle et lui caressait le sein était son amant. Mais tous quatre l'avaient prise, et elle ne l'avait pas distinguée des autres. On lui expliqua qu'il en serait toujours ainsi tant qu'elle serait dans ce château, qu'elle verrait le visage de ceux qui la violeraient ou les tourmenteraient, mais jamais la nuit, et qu'elle ne saurait jamais qu'elle était les responsables du pire. Que lorsqu'on la fouetterait, ce serait pareil, sauf qu'on voulait qu'elle se voie fouettée, qu'une première fois elle n'aurait donc pas de bandeau, mais qu'eux mettraient leur masque et qu'elle ne les distinguerait plus. Son amant l'avait relevée et fait asseoir dans sa cabrouche sur le bras d'un fauteuil contre l'angle de la cheminée pour qu'elle écoutât ce qu'on avait à lui dire et qu'elle regardât ce qu'on voulait lui montrer. Elle avait toujours les mains au dos. On lui montra la cravache, qui était noire, longue et fine, de fin bambou gainé de cuir, comme on en voit dans les vitrines des grands celliers. Le fouet de cuir que le premier des hommes qu'elle ait vu avait à la ceinture était long, fait de six lanières terminées par un nœud. Il y avait un troisième fouet de corde assez fine qui se terminait par plusieurs nœuds qui étaient toutes raides comme si on les avait trempés dans l'eau, ce qu'on avait fait, comme elle put le constater, car on lui en caressa le ventre et on lui écarta les cuisses pour qu'elle pût mieux sentir combien les cordes étaient humides et froides sur la peau tendre de l'intérieur. Restaient sur la console des clés et des chaînettes d'acier. Le long d'une des parois de la bibliothèque courait à mi-hauteur une galerie qui était soutenue par deux piliers. Un crochet était planté dans l'un d'eux à une hauteur qu'un homme pouvait atteindre sur la pointe des pieds et à bras tendus. On dit à haut que son amant avait prise dans ses bras une main sous ses épaules et l'autre au creux de son ventre et qui la brûlait pour l'obliger à défaillir. On lui dit qu'on ne lui déferait ses mains liées que pour l'attacher tout à l'heure par ses mêmes bracelets et une des chaînettes d'acier à ce poteau. Que sauf les mains qu'elle aurait tenues un peu au-dessus de la tête, Elle pourrait donc bouger et voir venir les coups. Qu'on ne lui fouetterait en principe que les reins et les cuisses, bref, de la taille aux genoux, comme on l'y avait préparé dans la voiture qu'il avait amenée quand on l'avait fait asseoir nu sur la banquette. Mais que l'un des quatre hommes présents voudrait probablement lui marquer les cuisses à la cravache qui fait de belles ébrures longues et profondes qui durent longtemps. Tout ne lui serait pas infligé à la fois, elle aurait le loisir de crier, de se débattre et de pleurer. On la laisserait respirer, mais quand elle aurait repris haleine, on recommencerait, jugeant du résultat non par ses cris ou ses larmes, mais par les traces plus ou moins vives ou durables que les fouets laisseraient sur sa peau. On lui fit observer que cette manière de juger de l'efficacité du fouet, outre qu'elle était juste, et qu'elle rendait inutiles les tentatives qui faisaient les victimes, en exagérant leurs gémissements pour éveiller la pitié, permettait en outre de l'appliquer en dehors des murs du château, en plein air dans le parc, comme il arrivait souvent, ou dans n'importe quel appartement ordinaire ou n'importe quelle chambre d'hôtel, à condition d'utiliser un bâillon bien compris, comme on lui en montra en aussitôt, qui ne laisse de liberté qu'aux larmes, étouffe tous les cris et permet à peine quelques gémissements. So much for tonight, my lovely naughties. I hope you enjoyed it. If you did, I gladly read more to you. Just let me know. And I will see you for another story time.